Bouville, placé à sa droite, le regardait avec fascination. Comme le Saint-Père avait changé depuis son élection. Non pas d'apparence. Le temps semblait sans prise sur ce mince visage pointu, ridé, mobile, au crâne enfermé dans un bonnet bordé de fourrure, aux petits yeux de souris, sans cils ni sourcils, à la bouche d'une extrême étroitesse, où la lèvre supérieure rentrait un peu sous la gencive sans dents. Jean XXII portait ses 80 ans plus facilement que bien d'autres la cinquantaine. Ses mains en donnaient la preuve, lisses, à peine parcheminées, et dont les jointures jouaient avec beaucoup de liberté. Mais c'était l'attitude, au ton de la voix, au propos que l'on pouvait juger de la transformation. Cet homme, qui avait dû son chapeau de cardinal à un faux en écriture royale, puis sa tiare à 2 ans d'intrigues sourdes, de corruptions électorales, parachevée par 1 mois de simulation d'une maladie incurable, paraissait avoir reçu une nouvelle âme, par la grâce du vicariat suprême. Parvenu au sommet des ambitions humaines, délivré d'avoir à rien désirer pour lui-même, toutes ses forces, toute la redoutable mécanique cérébrale qui l'avait conduit à ce fait s'employait de manière absolument détachée au seul bien de l'Église tel qu'il le concevait. Et quelle activité il y dépensait. Parmi ceux qu'il avait élus, croyant qu'il disparaîtrait vite et laisserait la curie gouverner en son nom, combien se repentaient à présent. Jean XXII leur menait la vie dure. Un grand souverain de l'Église, en vérité. Il s'occupait de tout, tranchait de tout. Il n'avait pas hésité à excommunier, au mois de mars précédent, l'empereur d'Allemagne Louis de Bavière, le destituant du même coup et ouvrant cette succession au Saint-Empire pour laquelle le roi de France et le comte de Valois s'agitaient tant. Il intervenait dans les différends des princes chrétiens, les rappelant, comme il était dans sa mission d'universel pasteur, à leur devoir de paix. En ce moment, il se penchait sur le conflit d'Aquitaine et avait déjà arrêté dans les audiences données à Bouville les modalités de son action. Les souverains de France et d'Angleterre seraient priés de prolonger la trêve signée par le comte de Kent à la Réole et qui arrivait à expiration en ce mois de décembre. Monseigneur de Valois n'utiliserait pas les 400 hommes d'armes et les 1000 arbalétriers nouveaux que le roi Charles IV lui avait envoyés ces jours derniers à Bergerac. Mais le roi Édouard serait impérativement invité à rendre l'hommage au roi de France, dans les plus brefs délais. Les deux souverains devraient remettre en liberté les seigneurs gascons qu'ils détenaient respectivement, et ne leur tenir aucune rigueur pour avoir pris le parti de l'adversaire. Enfin, le pape allait écrire à la reine Isabelle pour la conjurer d'employer toutes ses forces à rétablir la concorde entre son époux et son frère. Le pape Jean ne se faisait aucune illusion, pas plus que Bouville sur l'influence dont disposait la malheureuse reine. Mais le fait que le Saint-Père s'adressât à elle ne manquerait pas de lui restituer un certain crédit et de faire hésiter ses ennemis à la maltraiter davantage. Ensuite, Jean XXII conseillerait qu'elle se rendît à Paris, toujours en mission de conciliation, afin de présider à la rédaction du traité qui ne laisserait à l'Angleterre du duché d'Aquitaine qu'une mince bande côtière avec Saintes, Bordeaux, Dax et Bayonne. Ainsi, les désirs politiques du comte de Valois, les machinations de Robert d'Artois, les vœux secrets de Lord Mortimer allaient recevoir du Saint-Père une aide majeure. Bouville avait rempli avec succès la première partie de sa mission, pouvait manger de bon appétit le civet d'anguille, délectable, parfumé, onctueux, qui emplissait son écuelle d'argent.